Everyone's saying different things to me. Good morning, ladies and gentlemen.
Bonjour, mesdames et messieurs. Veuillez prendre place. Nous allons commencer. Merci.
Ladies and gentlemen, welcome to the.
Bienvenue à la deuxième session de consultation sur les nouveaux GTLD. Pour ceux qui n'ont pas reçu la nouvelle, on a envoyé un message pour dire que nous vous aimerions abréger cette session et ainsi que le board peut continuer à travailler sur la réponse sur la fiche de suivi et préparer des résolutions pour demain. Donc, de notre côté, on aimerait entendre les commentaires de la communauté et la leadership de groupe constitutif, on a leur demandé s'ils pouvaient préparer le matériau pertinent aux déclarations. Et j'ouvre la parole, la discussion, pour permettre au leadership de la communauté de discuter sur n'importe lequel de ces thèmes. Utilisez le microphone ici ou ici, et si vous avez des déclarations par écrit, résumez-nous le contenu. Il n'y a pas d'avantage à le lire à haute voix. Nous les obtiendrons par la suite et ils seront affichés. Donc, le nouveau GTLD, les sempiternels, nouveau GTLD. S'il n'y a pas de commentaires, donc nous allons abréger encore davantage cette session. Une clarification, Peter. Vous demandez des commentaires des SO et des groupes organisés. Amadeo, si on peut avoir des positions préparées de la communauté en premier, ce serait vraiment utile. Sinon, nous pourrons passer à la communauté. Il me semblerait que nous sommes concentrés sur les deux, dans les zones où il y avait la plus grande difficulté pour accepter l'avis du GAC et on voulait s'assurer que les gens puissent commenter sur les zones 1B. C'est là qu'il y avait un accord de principe, mais nous avions besoin de davantage de temps pour discuter les mécanismes et la mise en œuvre. Amadeo, si vous vouliez dire quelque chose au sujet de la fiche de suivi. Il ne sait pas qui je suis. Marilyn, allez-y. Merci. Je m'appelle Marilyn Cade et je suis le président du groupe BC. Et j'aimerais donner des commentaires en indiquant mon appréciation et pour dire comment le groupe que je représente aime avoir ce genre d'échange. Et je prendrai cette occasion pour nous noter que nous sommes très heureux de notre situation et nous pensons que c'est une leçon apprise et à l'avenir, il y a d'autres initiatives qui pourraient profiter des approches comme celle-ci, nous commencerons plus tôt à progresser là-dessus. Donc, le défi auquel je suis confrontée maintenant, c'est que beaucoup de mes commentaires ont été imbriqués les uns dans les autres. Donc, j'aimerais souligner ceci à 4.2. qui était un D, l'exigence que les nouveaux candidats, les nouveaux GTLD fournissent des informations sur les avantages attendus des GTLD proposés, ainsi que les informations et des termes d'opérationnel pour éliminer, minimiser les coûts. Je peux dire que les candidats doivent vraiment être en mesure de pouvoir expliquer au public qu'ils vont être leur registrant et qu'ils devraient être en mesure de décrire la manière si ils sont ancrés dans le tissu communautaire, comment ils vont empêcher d'enregistrer ceux qui ne sont pas qualifiés ou qui ne font pas partie de leur communauté ou de leur GTLD. Et on aimerait décrire en détail les actions et les programmes qu'ils vont entreprendre, qui vont empêcher les les enregistrements défensifs et que les enregistrements ne sont pas utilisés pour des fins malveillantes. Et ils devraient pouvoir décrire ceci, donc décrire la manière dont ils vont observer le l'obligatoire Sunrise et Centre d'information des marques et d'autres programmes. Merci. On va revenir à peut-être que Amadeo a pensé qu'il faudrait représenter d'abord aux représentants de la communauté d'abord. Donc, allez-y. Et pour les 1B, on va passer en revue toutes les 1B ou bien est-ce qu'on a des numéros 1 spécifiques? Donc, est-ce que je peux lire le premier et revenir ou bien est-ce que je devrais pas tous les passer en revue? Avri, vous pouvez, oui, les lire en revue. Ce sera plus rapide et plus facile. Donc, si vous allez prendre plus de 2 ou 3 minutes, non, pas tout. Vous pouvez vous asseoir. On va, s'il vous plaît, madame, asseyez-vous. Quand je dis le nombre, je l'ai sur une liste et j'ai peut-être un A parmi les 1B. Donc, lorsque je dis le nombre, si c'est un A, dites-le-moi. Et sinon, je vais continuer. Vous avez la parole. Numéro 1, le NCG n'était pas d'accord avec renomination du personnel pour les objections sur les intérêts du public. Et une des recommandations, c'était pas la recommandation de consensus, mais c'était pour REXIS, mais c'était une recommandation pour dire que ces principes étaient des principes de droit international. Et donc, nous recommandons que cela soit réexaminé en fonction de cette section pour bien l'enraciner, ce qui doit être fondamental pour prendre les décisions sur ces questions de principes de droit international. Donc, c'était la première chose. Ensuite, il y a un commentaire sur 2.2.4 où il y avait une formulation, une question de formulation et des options, et on recommande la formulation préjudice significatif. Et je crois que j'ai envoyé ceci à la fois au GAC et au board. Donc, vous les aurez également. Je crois l'avoir fait. Sur 4.3, et je pense qu'il s'agissait d'un A, je ne suis pas tout à fait sûre, mais le NCSG veut dire qu'il faille faire attention que le processus puisse être au détriment de l'innovation. Donc, il pourrait menacer les processus innovants chers aux gens. Donc, on aimerait, pour 6.1.2, nous voulons souligner que la position du GAC va contre les recommandations. Donc, elle est contre la recommandation de la communauté d'après la manière dont nous avons interprété. Pour 6.1.3, il est impossible de fixer des objectifs et des critères équitables pour des déterminations telles que indiquées dans 6.1.3. Ce n'est pas quelque chose qui puisse être fait et essayer de le faire, cela pourrait nous faire aller dans une mauvaise direction. Sur 6.1.4, le NCSG comprenait les deux parties et partageait les préoccupations du board que les détenteurs de marques s'emparaient de marques faciles et pouvaient ainsi jouer le système afin que le mécanisme soit adressé. Sinon, le système va être détourné avec des noms de faux noms. Donc, est-ce que tout le monde doit prouver l'utilisation? Non. On est d'accord avec l'utilisation. On veut faire une recommandation au groupe de travail JAS et au board en termes d'une réponse pour le GAC. Le GAC demandait que le JAS revienne sur sa position en termes de pays et pas des pays, des candidatures soutenues par des pays et qui ne recevraient pas d'assistance. Peut-être qu'il devrait regarder la liste des pays les moins développés et cela correspond aux recommandations GNSO indiquant que les pays les moins développés et reçoivent une des considérations particulières. C'était le paragraphe 10.6. Et 11.1, on voulait réitérer nos préoccupations quant à la définition du comportement criminel et souvent cela réduit la liberté de la liberté et de l'expression et des fois ils sont jugés comme étant un comportement criminel et donc toutes les conditions de comportement criminel doivent être restreintes par des accords signés internationaux et des droits civiques qui proviennent de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Bien que un ne soit pas applicable à tous, mais c'est un traité qui constitue la législation internationale. Et on a une préoccupation qui s'appliquait pour beaucoup de choses. Il s'appliquait à 2, 2, 5, 8, 1, 1, 1 et 8, 1, 4. Et ce sera mon dernier point. Le NCSG n'a pas pris une position quant à savoir si le GAC devrait être exempté de payer les frais pour faire une objection, mais le NCSG supporte ce qui suit un quand une objection est soulevée en fonction de l'exemption de frais. Le candidat doit avoir également une exemption de frais similaire dans la réponse. Donc, il devrait y avoir un examen après le cycle sur les effets de ces objections gratuites. Si on ne fait pas de restrictions sur les frais, alors ce sera très inéquitable d'exiger que les applicants devraient répondre parce que c'est plus facile de faire une objection et peut-être qu'il y en aura davantage avec des provisions supplémentaires. Avril, pour le dernier point, est-ce que vous avez pensé ce que cela fait au coût de la candidature? Quelqu'un doit payer pour ça. Ça coûte près de 50 000 $. C'est pas vraiment secondaire. On parle vraiment de quelque chose de gratuit dans le processus d'objection. Non, c'est pas notre position. On dit que si on donne une carte blanche gratuite à quelqu'un, donc cela devrait être donné aux deux parties dans la question. En termes des frais, dans un autre contexte, on pense que les frais, on a vu les frais, on a vu différents fonds de réserve, on a vu différents fonds de protection juridique, etc. Pour l'avenir, on pense que cela pourrait fournir ces fonds raisonnablement si on analyse la structure interne des frais et on voit ce qui est vraiment approprié, surtout lorsqu'on parle de quelque chose qui n'est pas contesté par le gouvernement. Qui est contesté par le gouvernement? Merci. Est-ce qu'il y a un autre groupe constitutif ou d'une position SA? Bonjour, je m'appelle Amber Sterling. Je suis la présidente du groupe au sein de NCSG et j'offre une opinion minoritaire et je vais ajouter mes commentaires à la section 6 et le 1, 2 que je. Et le 1 que je vais discuter, c'est à la section 6.4.4.4, la ventilation de certaines chaînes. Les organisations à but non lucratif, pour nous, ce sont des extensions. Pour nous, nous aimerions qu'il y ait des grands ajouts soient faits. Par exemple, .donate, .give, .charity. Donc, il y a une grande valeur à cela. Il y a beaucoup de possibilités causer des dommages. On aimerait qu'on analyse avec précaution les candidatures et le candidat lui-même. Et cela revient à la section 4.0 également. Et cela soulève la question de la seconde extension. Si vous mettez la charité, l'organisation caritative et votre ville, second niveau est important pour nous également. Donc, les centres de marque et la suspension rapide uniforme. Nous demandons le centre d'information continue après le lancement parce qu'il n'y a pas de possibilité de continuer l'exemple que Deborah Hughes a utilisé lundi pour la Croix-Rouge, qu'elle pourrait enregistrer la Croix-Rouge dans toutes les villes qui auraient un désastre, .donate ou avec n'importe quelle extension. On espère que la base de données des marques ne sera, donnera un certain niveau de protection pour ces noms et permettra que la communauté en ligne protégera cette communauté en ligne et protégera le travail des organisations à but non lucratif. Je crois que je vais terminer sur ce. Et davantage de ce côté, je m'appelle Carla Valenti de Steps, parlant de pour le des participations du monde, le NCUC prépare une déclaration supplémentaire au NCSG, la fiche de suivi qui a été présentée lundi. Il travaille sur la session maintenant merci beaucoup. Mason Cole pour le groupe de parties prenantes de registraire. Mason Cole, et j'ai deux arguments. Il est important que l'examen de différentes protections tienne compte des coûts et des protections, comment les systèmes sont mis en place et informer la communauté à l'avance si ces systèmes peuvent répondre à leurs objectifs. On pense que cela peut être fait. Le guide peut être approuvé maintenant et que les questions de mise en œuvre peuvent progresser. En outre, nous encourageons que le board et le GAC tiennent compte du problème de l'impact des coûts et cela ajoute à la progression du guide. Nous avons des commentaires pour les coûts du consommateur pendant l'introduction des nouveaux GTLD. Nous supportons le consensus de la communauté tel que reflété dans le consensus du rapport CTI qui a été approuvé par le Conseil GNSO. Nous pensons qu'il devrait y avoir que des droits protégés par les marques, les marques protégées par certains droits devraient être basés sur une forme de légitimité. Le guide a un grand niveau de ventilation qui devrait être utilisé pour chaque chaîne. Ce que nous voulons dire, c'est qu'une ventilation intense ne devrait pas inclure des critères d'évaluation additionnels. Premièrement, 6.4.2. Parlez moins rapidement, s'il vous plaît. 6.4.2, en ce qui concerne la mise en application, on pense que toute assistance doit respecter la loi vigueur dans le territoire dans lequel l'opérateur est situé, l'opérateur du registre. Nous supportons la position du board pour travailler avec les registres et la police par rapport à la mise en œuvre de la législation qui a eu lieu à Bruxelles. 6.1.7.2, qui est le coût de du centre d'information, nous sommes d'accord avec la position du board. Pour 11.2.1, nous sommes d'accord avec la position du board et les registraires devraient être opposés à la catégorisation des chaînes. Finalement, sur 11.3, nous sommes d'accord avec la position du board et pensons que la ventilation additionnelle est la sélection additionnelle est déjà demandée par le guide. Je vais soumettre ceci à l'écrit également au board. Merci beaucoup. Bonjour. Je représente les utilisateurs non commerciaux. Deux choses. Une à voir avec la défaillance. On aimerait dire que on voit que le board essaie de trouver l'équilibre entre les recommandations du GAC et on aimerait indiquer que la défaillance ne devrait pas et ne doit pas être sur la présomption de la culpabilité. On aimerait exprimer nos préoccupations que pour ces noms de domaine qui semblent être en faveur de la liberté d'expression, qu'il faudrait au moins avoir le pouvoir discrétionnaire de tenir compte de cela, même si dans le cas de la défaillance, il y aurait une question de liberté d'expression qui devrait être défendue. Finalement, les centres d'information qui incorporent tout type de marques de propriété intellectuelle, nous devons dire qu'il faudrait également intégrer la portée de la était de ne pas inclure certaines marques. Donc quand il y a une question de liberté d'expression, donnez-moi un exemple. Par exemple, vous lisez Vous lisez, j'aime Nokia et Nokia. Et par exemple, on doit faire une ils attaquent cela et il n'y a pas de défense. Si, oui, parce que la défaillance peut avoir pour différentes raisons, donc ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Donc, 14 jours, ça ne suffit pas pour répondre. Même si il s'agit de liberté d'expression, il faudrait au moins qu'on tienne compte qu'il pourrait s'agir d'une question de liberté d'expression. Chuck, à vous. Merci, Peter. Je parle au niveau du groupe de parties prenantes des registres. Je serai bref. Notre commentaire détaillé a été soumis hier. Ils ont été affichés dans notre réunion toute la journée hier. On a analysé tous les deux et quelques A1A et un B également. Je vous encourage à le lire et voir nos commentaires. Ils sont un peu longs, mais ils sont faciles à lire parce qu'on montre le contexte. On essaie de fournir une justification souvent pour notre position. Et je termine là-dessus. Merci, Chuck. Marilyn. Deuxième intervention. Merci. Je réalise que nous ne donnons pas nos commentaires dans un ordre précis, mais je vais faire référence aux commentaires auxquels le numéro auquel mon commentaire fait référence est 10.5. Je m'appelle Marilyn Cade. Lundi, j'ai remarqué que pour les langages, les langues qui sont limitées dont la présence est limitée sur le web, on sent que cela, ils ont un besoin particulier de soutien et nous avons suggéré que le BC supporte la réduction des frais. On ne pense pas également que les exigences techniques ou commerciales soient baissées parce qu'on pense que les registrants en particulier, ils ont méritent un service de haute qualité. Je vais faire une extension à cette déclaration. On pense que la recommandation et la variété de mécanismes de soutien et de sources pourraient être offerts aux candidats GLT qui ont une présence limitée sur le web. On pourrait inclure la réduction des frais pour des versions additionnelles pour les chaînes qui sont appliquées et pour les scripts IDN dans d'autres langues, ce qui pourrait permettre que ce candidat serve non seulement les utilisateurs assis,
scripts as well,
mais aussi d'autres langues. Est-ce qu'il y a d'autres groupes qui veulent prendre la parole concernant la position de l'ASI? Sinon, nous donnons... Oui? Ansley, Vancouver. Je suis heureux que le GAC ait produit cette carte de notation. Je pense que beaucoup de commentaires ici considéraient cela comme utile, mais je pense que nous devons nous souvenir que nous avons une carte de notation d'ICANN aussi. Ce processus de consultation doit être efficace et j'encourage le board et le GAC de les rappeler qu'ils travaillent en fonction des statuts qu'ils doivent les respecter. Merci. Je vous assure que nous sommes tout à fait conscients de cela. Merci. Bonjour. Je voudrais vous poser une question. Amadeo Abril. Et il y a certaines choses qui ne sont pas très claires pour moi. Est-ce que c'est un processus de consultation établi dans le statut ou quelque chose qui est préalable aux déclarations qui donnent lieu au processus de consultation? C'est dans le processus des statuts. Hein? Oui, parce que nous avons différents messages ici. Donc, si vous me permettez, j'ai deux commentaires généraux sur ce que nous devons faire ici. Laissez-moi vous dire que je comprends et je soutiens toutes vos positions concernant le GAC et la carte de notation du GAC, mais je pense que moi et la plupart des personnes considèrent et comprennent les soucis du GAC et tout ce que Marilyn, Robin, Jacques et Avril ont dit aujourd'hui et l'autre jour sont basés sur des choses qui sont logiques. Mais nous avons aussi besoin de parvenir à un consensus et laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, c'est le 7e anniversaire de la clôture du dernier, de la dernière procédure des nouveaux TLD. Donc, nous avons travaillé depuis 7 ans, nous travaillons sur cette procédure et nous avons sacrifié notre travail au nom de ce problème et des résolutions de ce problème. Donc, essayons de faire quelque chose, essayons d'expérimenter, peut-être faisons une tentative, mais essayons de voir si nous pouvons faire 6, 7, 10 TLD et voir un petit peu pour changer de chaîne, de passer. Essayer d'appliquer quelque chose et d'essayer de le lancer. Lorsqu'à la dernière minute, cela semblait, il semblait que cela allait être approuvé, on nous a dit qu'il y avait des erreurs et que ça n'allait pas être lancé. Donc, nous ne voulons pas que cela arrive à nouveau. Les deux qui ont été rejetés l'ont été et à cause du RFP. Donc, toute la scène a changé après l'évaluation. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tenir compte de tout. Je ne blâme pas le GAC ou le board ou la communauté, mais le board, cette réunion, les statuts, tout cela, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a appris au cours de ces dernières années. Nous avons le IDNCCTLD, nous avons des règles, nous avons la décision de certains panels qui peuvent être comprises. Mais derrière la scène, il y a toute une réflexion. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas et qui nous obligent à annuler tout ce qui a été fait auparavant. Et par exemple, pour la question des différents alphabets, c'est tout à fait correct, mais cela arrive après la décision. Donc maintenant, on nous dit qu'on a un consensus, mais qu'on ne peut pas s'engager et qu'on ne peut pas permettre de s'exposer après la sortie de l'application. On ne peut pas accepter une renégociation. Je dis d'accord, je soutiens ce qui a été fait. Ce que fait l'STI, le IRT, tout ça, parce que c'est un consensus sur lequel on doit travailler. Non pas parce que je pense qu'il doit y avoir des positions sur, mais je pense que les plaintes de l'IP devraient être cumulatives. Il y a un processus et c'est important, beaucoup plus important que notre opinion personnelle. Donc, si nous avons un consensus au niveau politique, mais que les gouvernements continuent à dire qu'ils ne sont pas d'accord, nous n'avons pas de consensus alors, dans le sens matériel du terme. Donc, est-ce que je peux demander au board d'analyser toutes ces questions et de voir si, en défendant le consensus, en tenant compte de tous les points, on ne permet pas, on peut accepter un test dans les mécanismes et permettre aux institutions de ne pas passer de nouveau 2 heures encore pour atteindre notre objectif principal. Donc, je vous recommande que cette fois-ci, nous ne essayons pas de rentrer dans des compromis. Tous ceux qui aiment cela, tous ceux qui n'aiment pas cela, non. Essayons d'avoir une approche qui comprennent toutes ces données, mais faisons un compromis pour les procédures. Le board doit faire un engagement, doit accepter d'évaluer d'une façon spécifique les requêtes des gouvernements, d'ALAC, des marques commerciales, des groupes de marques, des centres d'information de marques, parce que lorsqu'ils voient que malgré tous nos efforts et quelque chose peut arriver, il faut en être conscient de cela. Merci Amadeo. Oui, il y a beaucoup de choses ici et on verra. Mais le board est très conscient du fait qu'il doit défendre tout cela et le board connaît son rôle en ce qui concerne la défense du consensus de la communauté. Cela est reflété par un grand nombre de déclarations du GAC et tout cela. Et il y a des choses qui ont été très contestées d'ailleurs, vous le savez. Christine, je ne voudrais pas vous interrompre, mais est-ce que vous pourriez parler un petit peu moins vite parce que les personnes qui retranscrivent et les interprètes ont du travail pour vous suivre. Bien, nous allons tenir compte, oui. Bon, maintenant passons au point suivant. Amadeo, nous n'allons pas sacrifier les principes justement pour avoir un programme de GTLD et qu'il soit mis en œuvre. Nous n'allons rien sacrifier. Notre idée de créer un programme et qui réponde à toutes les attentes. Bien. Christine, je parle au nom de l'ABC concernant le IB et je voudrais mettre l'accent sur le point qu'il s'agit d'une position et d'une préliminaire et comme nous n'avons pas eu le temps de voir le processus dans son ensemble et s'il y a des changements qui vont être faits, je voudrais demander au board de bien y réfléchir en ce qui concerne le point 6.1.1. Nous sommes d'accord avec la position du GAC concernant l'inclusion des droits de propriété et des types de droits de propriété intellectuelle. Mais mon problème ici, c'est de s'assurer que ces droits de propriété soient bien définis du point de vue de l'IPC. La tentative ici serait de permettre à l'opérateur de registre d'organiser dans le pays où il fournit des tarifs de IP, de fournir des titres littéraires, par exemple, de permettre aux propriétaires de titres littéraires allemands, par exemple, de participer au PN et le centre d'information doit pouvoir accepter l'existence de ces droits. En ce qui concerne le point 6.1.1, nous suggérons que le board et le GAC tiennent compte de la résolution qui a été prise, parce que je pense que c'est un bon compromis. Nous comprenons le souci du board concernant les actions illicites, nous comprenons le GAC, mais nous pensons qu'il faudrait que, en tenant compte des enregistrements nationaux et supranationaux, on fasse un système de registre qui permette, avant l'accord de registre pertinent et qui permette que une candidature de GTLD soit reçue. De cette façon, on évite les actions illicites avec des gens qui attendent de voir à quoi sont appliquées les chaînes. Il faut tenir compte du fait que les processus d'enregistrement de marques dans certains pays sont longs. En ce qui concerne en ce qui concerne le point 6.1.4, il s'agit donc de la déclaration qui a été lue l'autre jour par l'IPC. Nous pensons que des prérequis devraient être imposés, puisque cela devrait être des prérequis pour certains registres. Le niveau d'expertise devrait être requis et aussi certaines preuves par le centre d'information qui seraient importantes pour démontrer qu'il y a un fournisseur. Et si cela n'est pas fourni, nous pensons que n'est pas nécessaire de le demander. En ce qui concerne le point 6.1.7.2, nous pensons que les registraires vont tirer profit des réductions de coûts qui sont liées donc aux opérations des centres d'information de marque, mais les registres ne sont pas requis par les registraires et dans ce cas-là, sur une base de Sunrise, nous pensons qu'il pourrait assumer ses coûts. Mais nous pensons qu'il devrait y avoir une contribution, en tout cas. Et les autres questions concernant les références faites pour l'examen et les position préalable. Nous conservons notre position préalable. En ce qui concerne le point 6.2.5, nous soutenons la position du board. Cependant, nous ne pensons pas que l'examinateur devrait requérir une image spéciale dans le cas de défaut. Vous pensez donc que c'est une question de liberté d'expression aussi. Moi, je pense que si il s'agit vraiment d'une défense disponible et qu'il y a une réponse à un défaut, il serait très difficile pour le plaignant de démontrer la nécessité et que le répondant n'a pas de droit ou d'intérêt légitime. Donc, c'est mon avis personnel. Et je pense que c'est tous les points que je voulais aborder. Bien. Je n'ai pas très bien compris ce que vous disiez à propos de du besoin pour l'utilisation. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu mieux ce que vous voulez dire en ce qui concerne la partie juridique pour donc l'utilisation? Nous voyons les choses de deux façons différentes. Nous avons deux soucis. Le premier, c'est que est-ce que c'est l'intention ou pas, le message qui a été communiqué par la preuve de l'utilisation pour obtenir un enregistrement. Je pense que c'est essentiel. Nous pensons que certains enregistrements sont plus utiles dans certains pays que dans d'autres. Et donc, si on n'a pas l'utilisation d'un enregistrement qui est important, il faut l'avoir, il faut l'utiliser. Donc, c'est notre souci dans ce domaine. En ce qui concerne la partie pratique, il nous semble que pour avoir un sens, une utilisation, il faut qu'il y ait des détails sur cette utilisation. Il faut qu'il y ait donc un centre d'information qui examine cela et qui soit capable de faire une distinction entre le fait que ce soit une utilisation légitime en connexion avec un service X ou non, ce n'est pas le cas. Et si ce n'est pas le cas, et nous ne pensons pas qu'il puisse y avoir des fournisseurs de services qui sont actuellement capables de faire cela, et en fonction du pays dans lequel cela est fait. Si on n'a pas le système permettant de voir si l'utilisation est logique, à ce moment-là, pourquoi le faire? Laissez-moi comprendre le deuxième point. Ce que vous dites, nous n'allons pas faire un examen de l'enregistrement puisqu'il n'y a pas de registraire de deuxième classe. C'est l'applicant, le candidat qui doit fournir toutes ces données. Je comprends cette perspective. Je pense qu'il s'agit d'une question de perception, de la façon dont on perçoit le message. L'enregistrement dans les pays où il faut d'abord examiner la candidature, je pense qu'il serait plus simple pour les registrants de se plaindre parce que cela a déjà été fait. Donc, c'est une perspective que nous avons. Nous pensons qu'il faut... on peut être d'accord ou pas. Donc, une fois que l'on a présenté cela auprès du centre d'information, je pense que c'est un point critique ici. Non, ils ont déjà fait cela de façon... Ils peuvent déjà faire cela de façon simple. Même si cela peut être difficile dans certains cas de trouver, quels que soient les prérequis ici, de trouver un moyen de le faire, cela est possible.
Steve, une question de Rita, qui est le leader de Temp sur les questions IT. J'aurais pu utiliser ce microphone hier, ça en fait. Donc, Christina, Dave Scott a fait une déclaration. Est-ce que c'était votre déclaration IPC sur le numéro 2? Et maintenant, vous essayez de voir. J'aimerais vraiment avoir les déclarations des gens, les finaliser dans la situation actuelle du processus. J'aimerais savoir quel est ce qu'on va vous donner. C'est un qui couvre tout, mais la déclaration de Jason adressait les points qui étaient les numéros 2, qui étaient parmi les priorités IPC. Il y a des numéros 2 en termes de des choses obligatoires à avoir qui ne faisaient pas partie de ceci, on a presque tout couvert. Mais il y a des quelques numéros 2 en raison des clarifications en cours, peut-être n'ont pas été couverts. Donc, c'est voici les 1B. C'est limité au 1B. Et on doit lire ce que vous nous avez envoyé ou on doit attendre les autres. Lisez ce que vous avez jusqu'à ce que vous recevez autre chose. Malheureusement, notre processus, nous avons un processus d'approbation formelle. Beaucoup de gens sont en transit. Nous ne sommes pas en position de dire que nous le ferons dans les prochaines huit prochaines heures. Mais nous faisons de notre mieux. Steve, merci. Steve Metalitz. D'abord, j'aimerais faire un commentaire au nom de la Coalition pour la responsabilité en ligne. Le point I11.5, qui est un B, qui porte déclaré dans la forme que les résultats ne seront pas affichés pour que ces résultats soient disponibles au public. Cela porte sur la due diligence des candidats. Le board a soulevé des questions de confidentialité et voilà ce que j'aimerais souligner, ce que je crois avoir entendu pour des représentants américains au GAC, c'est qu'au minimum, cette question devrait inclure une divulgation publique des officiers et des actionnaires principaux des candidats. Je crois que cela réduirait les questions de confidentialité et pour la publication des résultats de l'analyse des données personnelles. Et il me semble que j'ai raison. Et au cours des cycles précédents, les directeurs ou les actionnaires principaux ont été divulgués publiquement. Donc, c'est très important si le public doit assurer un soutien à ICANN et aux évaluateurs pour évaluer la qualification des candidats. Si vous regardez auparavant, au cours des cycles précédents, les candidats étaient une organisation, une grande entreprise avec un but spécial et beaucoup de ces organisations n'existaient pas avant la soumission. Et par exemple, .widget, LLC, ça ne nous dit rien au sujet de qui serait derrière aux commandes, donc qui ferait fonctionner le TLD. Donc, il me semble que le représentant US pour le 11.5, la norme minimum, il me semble que le représentant américain a argumenté que il faudrait divulguer les officiers, peut-être que le public va nous aider. Le board aime bien le concept de publier les gens qui sont commandes des entreprises, mais ce qu'on ne va pas faire, c'est de publier les résultats des enquêtes de diligence due sur ces personnes. Oui, je voulais faire cette distinction et la position minimale, le premier volet, serait très utile. Merci beaucoup. Oui. Bonjour, je m'appelle Anne Inkmanskelis. En général, c'est mal écrit. Et je suis avocate à Arizona et je suis membre récent de l'IPC, mais je ne parle pas au nom du groupe de constitutifs. Ce que je voulais dire, c'est d'abord qu'il y a une question sur le processus. Une de mes grandes joies au cours de ma carrière sur les marques, c'est une grande variété de clients. J'ai des clients qui vont depuis des grandes sociétés de la défense des artistes, connues et non connues, à des petites PME, des télévisions avec public. Donc, une chose que les clients ont actuellement en commun, c'est qu'ils ne comprennent pas vraiment tous les 1A et les 1B et les 2. Donc, j'espère qu'il y aura, je suis désolée de dire pour ceux dans la pièce qui sont assez frustrés par cela, j'espère qu'il y aura une autre possibilité, comme période de commentaires dans le guide, pour que je puisse expliquer tous ces 1A, 1B et 2 à mes clients. Je dirais également qu'un dénominateur commun, c'est qu'il bénéficierait de services de notification des plaintes, des revendications. Et je voudrais réitérer ce qu'a dit les organisations non lucratives et la Croix-Rouge, c'est que le lancement n'est pas seulement la période pertinente pour ce service de revendication IP. Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est que je pense que dans la réunion du GNSO, l'un des représentants des registraires a soumis un commentaire très intéressant, et c'était que peu importe que nous voulions l'admettre ou pas, quand dans le processus de réglementation d'un secteur, nous sommes tous impliqués dans la réglementation, nous connaissons les problèmes, les avantages, les inconvénients. Mais je pense vraiment que l'auto-réglementation est préférable à obliger les gouvernements à nous réglementer, et j'apprécierais dans la mesure où ICANN pourrait le faire comme détenteur de la confiance du public. Il y a une analogie entre le contrôle des systèmes de communication internationaux et ce qui se passe aux États-Unis, ce qui concerne les ondes publiques avec la télévision. Donc, je vous encourage à reprendre ce manteau, d'être l'entité régulatrice, et ne forçons pas le gouvernement à le faire pour nous. Merci. Amadeo, quelle était votre question? D'abord, vous avez demandé si pour les constitutions, la consultation des statuts, il n'y a rien dans les statuts qui exige une consultation. Ce que les statuts exigent, c'est que les partis essaient en bonne foi et de manière efficace à trouver une alternative efficace. Donc, il y a un échange de documents et la nomination de leaders, et il y a la convention de Bruxelles qui va le faire, mais il n'y a pas un procès ou autre type de choses de ce genre. Donc voilà la manière dont nous essayons de faire, de résoudre efficacement et rapidement les disputes. Donc on a d'autres commentaires du public. S'il n'y en a pas, je vais clore en disant merci. Les gens sont depuis longtemps. Moi aussi, auparavant, j'étais le président d'un groupe constitutif qui était avant le DNSO, et je savais ce que c'est dans un groupe ICANN de rassembler le groupe et de confronter un autre type de documents, de les analyser, de trouver une position, de trouver un consensus parmi vous, de trouver une forme cohérente et le présenter, de tout refaire 2 jours après. Donc, je reconnais les efforts et je remercie le groupe pour tout le travail accompli, le board et le personnel le font également. Donc il y a beaucoup d'activités en cours ici pour solutionner ces questions et trouver ce compromis acceptable et comme cela est exigé par le statut. Donc merci Mariam, vous allez terminer. Je ne sais pas si c'est la manière la plus efficace parce que il y a très peu de membres du GAC présents aujourd'hui. Oui, on doit avoir des consultations directes avec le GAC. Je suis désolée, je veux poser une question. Vous avez dit que le processus exigeait un compromis accepté par les deux parties. C'est ce que vous cherchez? Oui, d'accord, c'est ce que je voulais clarifier. Et le prochain statut dit que si on ne peut pas trouver cela, alors le board doit passer outre et dire pourquoi il n'accepte pas l'avis du GAC. Donc, je vais clore la session. Merci tous. Le board va retourner au travail pour digérer ses commentaires comme le GAC. Merci à tous.